Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, vous écoutez Studio Tamani. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici la matinale. Les groupes djihadistes imposent leur loi dans plusieurs localités du centre et du nord du pays. Les populations de ces zones demandent de l'aide aux autorités. À Bamako, l'augmentation du prix du carburant a porté un coup dur à l'activité des conducteurs de ce tramway. Plusieurs d'entre eux ont été contraints de garer leur véhicule à cause du manque à gagner que la situation a engendré. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui au miel. Selon des spécialistes, cette substance sucrée par les abeilles, fabriquée par les abeilles à l'aide du nectar des fleurs, regorge de beaucoup de bienfaits pour la santé. Les détails dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo, Mamadou Ouattara sur la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les groupes djihadistes continuent de se signaler dans plusieurs localités du nord et du centre du pays, avec comme conséquence l'imposition de la charia. Par exemple, dans des communes de Youarou et des villages de Niafenke, le port du voile noir est obligatoire pour les femmes. Des sources locales affirment aussi que ces hommes armés obligent la population à payer la zakat. Terrorisée par la situation, la population lance un appel aux autorités. Le point avec
De nombreuses sources affirment que les djihadistes dictent leurs lois dans plusieurs localités du cercle de Youarou, notamment Dirma, Dongo, Ndodjiga, Bemberetama et Deboy. Selon les mêmes sources, ces hommes armés ont rendu obligatoire le port du voile et ont interdit les cérémonies traditionnelles et musicales à Sarafere et Assa, dans le cercle de Niafunke, région de Tombouctou. En plus du port obligatoire du voile noir par les femmes, des habitants rapportent que les hommes sont aussi soumis à d'autres règles de la charia, dont le port des pantalons courts et l'obligation de garder la barbe intacte. La musique y est aussi interdite. Selon des sources locales, ces hommes armés sont visibles partout dans ces villes. Ils sont dans les marchés, les lieux publics et dans les mosquées. Dans la région de Bondjangara, des hommes armés ont fait irruption ce lundi dans le village de Yendouma, précisément Yugapiri. Ils ont tué 2 habitants, blessé un autre, avant d'emporter une dizaine de motos. Des boutiques ont été aussi pillées et des animaux emportés, déplorent des sources locales. Dans la même journée de lundi, l'état-major général des armées annonce avoir mené des opérations de ratissage à Diondiori et Youarou, dans la région de Mopti. À Diondiori, 2 enfants ont perdu la vie par coup d'obus des groupes djihadistes. On note également 4 blessés.
Pendant ce temps, les populations des localités proches de la forêt de Ouagadou et celle de Dringalé exhortent les autorités à lever l'interdiction de circulation imposée aux civils dans les dites zones avant l'hivernage. Elles affirment que si cette mesure n'est pas suspendue pendant cette période, elle aura un impact considérable sur leurs activités champêtres et d'élevage. Amadou Diko, président du conseil communal de la jeunesse de Dili, il est joint au téléphone par Amsé Toutouré.
Depuis jusqu'à maintenant, quand même, dans les forêts de Dingalès, donc l'interdiction, je pense, a été respectée. Ça a eu des impacts un peu. Nous, ici, au Sahel, c'est une zone d'élevage. Donc, les forêts de Dingalès, c'est un lieu fréquenté par les éleveurs. Donc, c'est le seul lieu où les éleveurs se campent. Donc, bientôt, il y aura de l'hivernage parce que c'est là-bas que tout le monde va aller s'installer avant le début de l'hiver, puisque les animaux puissent être un peu en l'aise. Donc, ça a eu un peu de l'impact parce que tout le monde a été dégagé, tout le monde a été abandonné ce lieu-là pour le moment. Pour nous, quand même, il faut que cette tension soit levée parce que c'est un lien même de passage pour nous. Parce que même nous, en voyageant même sur le futur Bamako, c'est un moyen même de transport pour nous. Parce que là-bas, là, c'est plus proche. Parce que nous transversons les forêts de Dringalé pour se rendre à Bamako.
Vous avez la possibilité de réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 4 minutes à Bamako. En 2020, le Mali a encaissé moins de 200 milliards de francs CFA sur une prévision de près de 400 milliards d'appui budgétaire des bailleurs de fonds. Mais en 2021, il n'y a eu aucun appui budgétaire. Ces informations ont été révélées lundi soir par le ministre des Finances, Alousseini Sanou. C'était sur les antennes de l'ORTM, la télévision nationale. Le ministre a toutefois indiqué que le pays a atteint une croissance de 3,1% en 2021, malgré le déficit budgétaire. Un résumé des propos du ministre avec Mamadou Samasekou.
On dort très peu, mais on reste engagé parce que nous avons une vision qui est partagée par l'ensemble de la population, a déclaré le ministre à l'entame de ses propos. Selon lui, la gestion du Mali dans le contexte actuel est un défi, un challenge. Il a regretté notamment les sanctions de la CEDEAO, les conséquences de la COVID-19 avec la cherté de la vie et la rareté des appuis budgétaires. L'investissement dans la relance économique est une des mesures économiques prises pour y faire face. Le ministre affirme que plus de 87 milliards ont été déboursés par l'État pour différentes dépenses au niveau de la filière coton. Ce secteur fait vivre directement plus de 4 millions de Maliens, a-t-il précisé. La Coma Text sera restructurée dans les prochains mois, a aussi annoncé le ministre Sanou. Il a également ajouté que la relance de l'OMH va coûter à l'État 115 milliards de francs CFA et le plan de développement 2022-2026 de l'EDM coûtera 2250 milliards. Le chef du département des finances a signalé que les recettes douanières sont passées de moins 50 milliards par mois à 60 milliards de francs CFA à la date du 31 décembre 2021. Il a noté une augmentation de recettes fiscales sans préciser les chiffres. Le ministre indique aussi que les dispositions sont prises pour l'approvisionnement du pays en carburant. Mais si ça nous rassure les Maliens que le pays a des perspectives de croissance immenses.
Sur un tout autre sujet, à présent, à quelques semaines du début des examens de fin d'année, les écoles privées observent un arrêt de travail dans certaines localités du pays. Les promoteurs de ces établissements réclament à l'État le paiement de leurs subventions. C'est le cas à Sikasso, Bougouni et Kadiolo. Idrissa Sako nous en dit plus.
À Sikasso, les écoles privées agréées du Mali à AEPAM observe un arrêt de travail depuis ce matin. Cette grève devra durer 72 heures. Selon les responsables de l'AEPAM de Sikasso, ce mouvement se justifie par le non-paiement total des frais scolaires et demi-bourses d'une grande majorité des établissements des écoles privées agréées de Sikasso. Les frondeurs avertissent que la grève sera illimitée si les revendications ne sont pas satisfaites. Le même mouvement est en cours à Bougouni pour les mêmes motifs. À Kadiolo, les promoteurs des lycées privés et les centres de formation professionnelle du cercle de Kadiolo ont fermé leurs portes ce matin pour 72 heures. Pour les promoteurs, ils viennent en solidarité à ceux de la région de Sikasso pour réclamer leur subvention à l'État. Selon eux, cet arrêt de travail pourrait être transformé en grève illimitée si la situation n'est pas débloquée. Par contre, à Ansongo, au nord du pays, ce sont les élèves du lycée Mamadou Issa Maïga d'Ansongo qui ont déclenché une grève de 72 heures à compter de ce matin. Selon l'AEM, il s'agit de dénoncer le manque d'équipement de la salle informatique, la non-ouverture de l'infirmerie du lycée et le non-respect des engagements tenus par le proviseur.
Idrissa Sako, je vous le disais dans les titres, à Bamako, le secteur des transports en commun, notamment les sous-tramas, subit actuellement de plein fouet les conséquences de la hausse du prix du carburant. Selon les syndicats des conducteurs de sous-tramas, cette situation a porté un coup à leurs activités. Certains conducteurs ont même été obligés d'abandonner ce travail, disent-ils. Le reportage de Adama Djigiba.
À la gare de Sotrama, appelée place de Manyambougou, ce vendredi matin, seulement deux véhicules sont stationnés, attendant des passagers. C'est le constat à cette place depuis quelques temps. Ladji Aïdara est le responsable du syndicat des conducteurs de Sotrama de cette place. Selon lui, cette situation est due à la hausse du prix du carburant.
Que les litres d'essence augmentent de plus de 200 francs. C'est la première fois que j'ai vu ça. Pourtant, je suis dans le domaine du transport depuis près de 25 ans. À cause de ça, certains ont tout simplement préféré garer leur véhicule parce que le carburant coûte cher et on ne gagne pas d'argent.
Cette augmentation du prix du carburant a provoqué une hausse des prix du transport. Une situation que dénoncent de nombreux usagers.
C'est vrai que tout a augmenté. La hausse des prix du transport a été très dure.
Le transport est devenu cher maintenant. On trouve les sous-tramas, mais c'est le prix qui est cher parce que personne n'a de l'argent maintenant.
L'augmentation des prix du transport a été un coup dur pour tout le monde.
Face à la situation, conducteurs des sous-tramas et usagers demandent aux autorités d'agir.
À l'instant, c'était le reportage de Adama Djigiba, notre correspondant à Banjagara, actuellement stage d'immersion à Studio Tamani. Direction à présent, Djoïla, tous les services publics de cette région, y compris le gouvernorat, sont dans des locaux loués. Des maisons des particuliers sont mises en bail et payées par l'État. Ces déclarations sont du responsable de la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de la localité. À cette situation s'ajoute la méconnaissance des textes liés à la construction des habitats par les populations locales. Ces dernières expliquent cette méconnaissance par l'absence du service de l'urbanisme depuis plusieurs années à Djoïla. Le reportage de notre envoyé spécial dans la localité, Emirana Kilumaïga.
La direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Djoïla fait face à d'énormes difficultés dans le manque d'infrastructures. Nous travaillons dans des conditions très difficiles, se lamente Mamadou Koulibaly, chef de la subdivision de l'urbanisme et de l'habitat de Djoïla.
Le service est dans un bâtiment bailli, payé par l'État. Mais bon, avec tout ça, bon, on s'est débrouillé. On est obligé de travailler, comme c'est le Malikoura. Même notre gouverneur est en bail. Bon, les services sont créés, les directions sont créées. Bon, il faut les faire loger, et les bureaux. On est obligé de prendre la maison des particuliers.
Outre ces difficultés, la subdivision est aussi confrontée à une méconnaissance des populations des textes régissant la construction d'un habitat. Ils sont nombreux, les habitants, qui ignorent les missions confiées à la direction de l'urbanisme.
Je ne peux rien dire concernant les travaux pour le moment.
Nous, on a besoin des papiers comme le plan. Et après le plan, il faut l'autorisation de la construction. Et après ça, tu n'as pas de problème. Parce qu'on a l'habitude d'arrêter moi-même ma construction ici. Parce qu'en ce moment, je n'avais pas de plan.
À noter que le service de l'urbanisme a été créé en 1998, mais basé à Fana. Il a fallu 22 ans après pour que la subdivision soit délocalisée à Djoïla, indique le responsable de la structure de Djoïla, Imran Akilo Maïga, pour Studio Tamani.
Produit très prisé par certains consommateurs, le miel a-t-il des vertus sur la santé humaine? Des nutritionnistes répondent que oui. Selon eux, le miel peut prévenir certaines maladies. Toutefois, ils préviennent que sa consommation doit être modérée ou sur conseil des médecins. Mais tous les consommateurs de miel en sont-ils conscients? Élément de réponse dans ce reportage de Djenebou Konaté.
Salif Bengali et Fatoumata Damélé sont deux consommateurs de miel. Chacun dit utiliser le produit pour ses vertus médicales.
Je consomme le miel cru, tout comme je consomme avec d'autres produits. Chaque matin, je suis sur le miel et l'aloe vera pour traiter mon ulcère.
On peut l'utiliser aussi pour la peau. On mélange avec du beurre de karité et on met sur le visage et après on va se laver.
Les spécialistes confirment que le miel a des vertus thérapeutiques, mais le produit doit être consommé à des moments précis. Docteur Wantigi Jara, nutritionniste.
On sait que le miel prévient dans l'asthénie physique, c'est-à-dire toute personne qui est fatiguée physiquement, quand tu consommes une cuillerée de miel la nuit au coucher, le réveil, tu te sentiras vraiment mieux. Dans la prévention, même les plaies, certains utilisent que c'est un anti-inflammatoire, d'autres utilisent qu'un antiseptique. Bien, le moment propice pour consommer le miel, je dirais, pour pouvoir profiter des avantages au moment du coucher, vous consommez une cuillerée de miel, et là, vous couchez. Ne consommez pas ni d'autres boissons, ni même de l'eau simple.
Si les conseils des spécialistes sont recommandés pour une consommation sans danger du miel, il est important de chercher la bonne qualité aussi, ajoutent les nutritionnistes.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité en quelques brèves. Un commerçant de Bafin dans la commune rurale de Bamafélé, cercle de Bafoulabé, a décidé de faire Bandjougou, Tintin et Bamako à pied, une distance de plus de 300 km. L'objectif était de manifester son soutien à la transition. Il a pris le chemin le 21 avril dernier en présence des autorités administratives et plusieurs notables de la commune. Il est arrivé à Bamako le 1er mai 2022 après 10 jours de marche. Et depuis, il cherche à avoir les autorités de transition sans succès. Notons que le marcheur est aussi porteur d'un message sur les difficultés du Bafin, notamment le manque de routes et d'infrastructures scolaires, entre autres. Un accident de circulation a fait mort lundi dernier à Zantigila, commune rurale de Zankoulibaly. Une source de la protection civile de Koulikoro indique qu'il s'agit d'un motocycliste mort à la suite d'une chute brutale provoquée par une mauvaise manœuvre de son engin. La victime a été transportée à l'hôpital du Mali par les agents du poste de secours de Ntabakoro. Les causes et les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamu au 37 321. J'ai eu le plaisir de vous présenter ce journal mis en onde par Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine. centre de santé de référence de Bla couvre plus de 17 communes du cercle. Plus de 10 000 consultations ont été effectuées dans cette structure sanitaire en 2021. C'est du moins ce qu'a déclaré le responsable du centre de référence de la localité. Il demande plus d'infrastructures et de ressources humaines qualifiées pour une meilleure prise en charge des patients. Écoutons Dr Famaka Nkane, médecin-chef du centre de santé de référence de Bla. Il répond aux questions de Moussa Malé Sissoko du retour de Bla.
Ici, c'est la pathologie la plus fréquente, c'est le paludisme. Nous avons aussi, à une certaine période, des infections respiratoires aiguës, mais nous avons aussi un service surtout pour la malnutrition. Les enfants sont beaucoup plus admis aussi pour la malnutrition aiguë sévère. Et en plus de cela, au niveau du CCRF, nous avons un service de chirurgie, un service de médecine générale, nous avons un service d'ORL, une unité d'ORL avec l'odonto, une unité aussi d'ophtalmo. Aussi, la maternité fait beaucoup d'accouchements, près de 1500 accouchements par an, donc 500 césariennes de façon globale. Et la position aussi de Bla fait que nous arresterons beaucoup de cas d'accidents de voie publique. 2021, nous avons arrêté 204 accidentés.
Le CCRF couvre quelle localité?
Le CCRF couvre l'ensemble des 242 villages, donc les 17 communes du cercle de Bla. C'est un centre de référence pour les 35 CCRF.
Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans ce centre de santé?
La première des difficultés, c'est la vétusté des infrastructures. Un centre de santé revitalisé depuis que Bla était arrondissement avant des années 77. Nous avons un bloc opératoire qui ne répond pas aux normes. On a identifié, à la demande du ministère de la Santé du département, un site. Les études architecturales ont été faites, mais nous attendons un financement pour la construction. Difficulté aussi, j'allais arriver, c'est l'insuffisance du personnel. Par exemple, le personnel qualifié. Prenez la maternité. Normalement, au niveau d'une maternité de CCRF, il faut un minimum de 6 sages-femmes. Nous n'avons que 2. Les infirmières obstétriciennes, on n'en a que 2. Donc, tout le personnel de la maternité, en tout et pour tout, 2 sages-femmes, 2 infirmières obstétriciennes qui doivent faire la prise en charge, ils doivent suivre les programmes. La pédiatrie, nous n'avons pas de pédiatre. Et au niveau de la traumatologie, où nous arresterons beaucoup de cas d'accident. De par notre position, nous n'avons pas de traumatologue. L'urénie, nous avons beaucoup de cas de malnutrition aiguë qui sont hospitalisés, mais nous n'avons pas une unité. Nous avons 2 vieilles ambulances qui ont plus de 5 ans, avec les terrains difficiles. Et souvent, on est en panne même au cours des évacuations. Et nous avons l'accompagnement de nos responsables des collectivités et de l'administration, mais c'est des réelles difficultés que nous avons.